Un
Bon.
podcast pour ceux
Ça commence
qui
bien.
aiment le sexe.
Superbe. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Sintès. Frédéric, ça va la pêche, la patate.
Oui, carrément.
Et Fabien Ilvine. Et aujourd'hui, c'est
Salut
toi qui
Romaric.
vas faire l'animateur,
Et
car
ouais.
comme tous les premiers jeudis du mois, il y a un one shot.
Et oui.
Et un one shot sur quoi?
Un one shot sur Breaking the Ice d'Emily Kerbos.
De d'Emily
Emily Kerbos.
Alors
oui, alors je précise toujours le nom des auteurs de jeux parce que je trouve que c'est important de rappeler que les jeux sont des créations d'une personne qui, surtout les jeux indépendants,
ouais.
où donc, comment on sait, l'auteur possède la totalité des droits, enfin, c'est vraiment son bébé, c'est à lui, c'est son œuvre. Mmh. Et donc, voilà.
Donc, du coup, tu juges que c'est important de donner le nom. Et nous aussi,
et là,
tout
en
à fait.
L'occurrence,
on le fait toujours.
D'ailleurs, c'est publié.
Alors, qui est Emily Kerbos? Est-ce que.
Alors, c'est une.
C'est une forgienne, hein.
Oui, alors, c'est une for. Effectivement, c'est
un point intéressant à dire quand même.
Une contributrice régulière de la Forge, du forum Story Game aussi.
Bon. Ouais.
Bon, pour ce que ça vaut. Et donc, elle a publié trois jeux sur les relations amoureuses, donc, qui sont d'une part Breaking the Ice, qu'on vous présente ce soir,
ouais.
Qui est un jeu donc, qui se joue à deux et qui raconte une histoire d'amour naissante entre deux personnages.
D'accord.
Ensuite, il y a Shooting the Moon,
ouais.
Qui raconte l'histoire d'un trio amoureux, c'est-à-dire ouais. qu'il y a deux personnes qui sont amoureuses d'une troisième et donc qui vont essayer de s'affronter pour avoir le plaisir de sortir.
On aurait dû jouer à ça,
de son amour. Et le dernier s'appelle Under My Skin, qui est un jeu qui se joue je crois que ça commence à 8, ça peut aller jusqu'à 12, enfin il y a des variantes à 4.
Ah oui, d'accord. Enfin,
bon, c'est un jeu où il faut être nombreux.
Un jeu donc de partout, c'est ça?
C'est pas loin d'être ça.
2, ça se joue à 2, 3, ça, c'est du triolisme, et puis là on va à plus.
Pas loin, pas loin, parce que dans Under My Skin, tu commences la partie, c'est toujours un nombre pair de joueurs, puisque tu commences la partie avec quelqu'un qui est donc officiellement ton partenaire amoureux.
D'accord. Ouais.
Et tu vas te trouver attiré par une autre personne de la.
Intéressant.
Donc c'est un jeu sur l'adultère, s'il faut donner tous les mots.
Alors là, on va casser la glace ce soir.
Alors ce soir, on casse la glace, absolument. Breaking the Ice. C'est un jeu qui a été traduit récemment par La Boîte à Eux.
Ah voilà ce que je voulais dire.
D'accord.
Et donc c'est un jeu qui est maintenant disponible en français, ce qui n'est pas encore,
encore
le cas.
C'est
pas encore le cas pour Shooting the Moon et Under My Skin, mais peut-être que ça viendra.
C'est
donc Breaking the Ice. Le principe, c'est que Fred et moi allons jouer une histoire d'amour naissante entre deux personnages.
D'accord. Moi, je vais regarder, je vais tenir la chandelle.
Exactement, dans tous les sens du terme.
Il y a des épées bâtardes.
C'est possible.
Ah, cool.
Puisque là, alors il y a plusieurs grandes phases dans le jeu.
D'accord.
On commence par se mettre d'accord sur le genre dans lequel on va jouer. C'est-à-dire que il y a plein d'histoires d'amour différentes et elles peuvent se passer dans des tons très différents. Ça peut être de la comédie romantique du genre mari à tout prix.
Ouais.
Ça peut aller vers des trucs un peu plus décalés, genre il y a pas longtemps j'ai lu But I'm a Cheerleader, qui est l'histoire d'une
d'une pom-pom girl,
d'une ado que ses parents envoient dans un camp pour s'assurer qu'elle soit bien hétéro, alors que bon, jusque là elle se sentait pas particulièrement
lesbienne,
et qui se découvre. Et puis des trucs un peu plus glauques, un peu plus noirs, genre Harold et Maude, ou bien Roméo et Juliette de William Shakespeare, qui sont tous des histoires qu'on donc on peut jouer à l'aide de Breaking the Ice. Je cite ces exemples parce que c'est des exemples du bouquin. Donc,
d'accord, ok.
Très bien.
Voilà.
On est à fond dans le contexte.
Et donc, on va se mettre d'accord.
Ça a l'air d'être original déjà au niveau de ce qu'on te propose de jouer. C'est-à-dire
alors, ce qui est intéressant, c'est
par
qu'en
rapport
fait...
à la proposition en général du jeu de rôle. On est dans un cadre là qui est déjà très original. On va jouer une histoire d'amour vraiment quoi.
Voilà. Alors,
et uniquement ça, j'ai envie.
C'est
de dire.
Ça. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu se concentre sur l'histoire d'amour et que l'univers est quelque chose d'accessoire et peut être changé.
C'est pour ça que tu disais à Fred tout à l'heure qu'on pouvait avoir des épées bâtardes.
Tout à
finalement.
Fait.
On peut faire du Breaking the Ice dans un univers héroïque fantasy.
Fantasy, si ça vous branche. Ouais. On peut le faire. Alors.
Pourquoi tu as l'air de dire si ça vous branche d'une manière
oui, oui, dans le sens où, en fait, il y a pas longtemps, j'ai tenté de faire un Breaking the Ice dans un univers d'invasion zombie.
Ouais. Cerveau.
Ah là, c'est ça. Et en fait, rapidement, avec la Guillaume Nocker, que je salue d'ailleurs, on s'est dit que c'était pas intéressant, notre jeu serait plus intéressant si on restait dans un monde contemporain, parce qu'on trouvait les relations tellement géniales qu'on n'avait pas besoin de rajouter du zombie dedans.
D'accord.
Donc voilà, pour dire que ce qui est intéressant par rapport
à... Il y a des contextes qui sont plus ouverts à l'histoire.
Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que les zombies, c'était peut-être pas particulièrement... Mais... Mais ce jeu, en fait, le message fondamental de ce jeu, c'est pas l'univers qui est le plus important, c'est la relation entre les deux personnages. C'est ça ce qu'on va explorer à fond.
D'accord, ok. Alors, et quel système nous permet d'explorer cette charmante problématique ?
J'y viens. Donc ensuite,
thème, plus exactement.
On va créer nos personnages.
D'accord, ouais.
Alors il y a toute une méthode de création de personnages, notamment en partant de sa couleur préférée, que je trouve assez sympa.
D'accord, par exemple tu dis tu notes rouge et puis ensuite tu as des espèces d'embranchements.
Voilà, c'est ça. En fait, tu les deux joueurs rajoutent chacun à leur tour des mots.
D'accord, ouais.
Une sorte de schéma heuristique.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas le plus important dans la création de personnages. Ce que je trouve le plus important, c'est qu'on commence par...
Un schéma heuristique, excuse-moi.
Une arborescence, en fait, qui part d'un point et qui s'étend comme des racines ou des branches d'arbres.
D'accord.
Vers plusieurs autres points. Okay.
La dimension la plus intéressante que je trouve dans la création de perso, c'est ce qu'on appelle l'échange. C'est-à-dire que on va se demander en quoi Fred et moi on est différents. Et on va donner à Fred la caractéristique de. On va donner au personnage de Fred la caractéristique que j'ai moi comme joueur, et à mon personnage la caractéristique que Fred a comme joueur.
D'accord.
Donc, si par exemple.
Si par exemple, on était un.
Attention à ton micro, Frédéric.
Si par exemple, on était un homme et une femme, on pourrait très bien intervertir les rôles.
C'est-à-dire que le Fred.
Alors, si toi, tu étais une femme, Frédéric.
Je jouerais un homme.
Tu jouerais un homme.
Voilà.
Et Fabien jouerait une femme, du coup.
C'est ça. C'est
un exemple parmi tant d'autres.
C'est l'échange. Ouais, enfin, c'est l'échange le plus. Dont il parle dans les exemples du jeu. Mmh. Et puis
Donc, on est amené déjà à jouer ce qu'on n'est pas, mais ce que l'autre en face de nous est en tant que joueur.
C'est ça.
Intéressant.
Absolument. Ce qui
est
intéressant,
c'est dire que Fred est, entre vous deux, toi, t'es plutôt quelqu'un d'éloquent, alors que Fred est plutôt quelqu'un de réservé en général.
Ouais, d'accord. Enfin,
c'est pas vrai tout à fait. Ouais, mais donc ton personnage ton personnage Fabien sera du coup réservé et le personnage de Frédéric sera éloquent. Ça, c'est très intéressant, je trouve, au niveau de la démarche.
Oui. Alors, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça force à mettre quelque chose de personnel, donc d'une manière ou d'une autre, à ne pas rester extérieur, ça implique immédiatement comme joueur, et ça crée quelque chose de très fort émotionnellement, de puissant, qui fait que là, on va construire vraiment une relation amoureuse, authentique.
D'accord. C'est beau ce jeu. Hein.
Ouais. Alors, moi, c'est vraiment un jeu. Je le cache pas, je le dis, je suis un très très grand fan de ce jeu.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour nos auditeurs, c'est que avant même que la boîte à eux ait traduit ce jeu, nous, autour de cette table, on était déjà fans du jeu.
Ouais,
je signale parce qu'on pourrait nous faire un procès d'intention et dire qu'on est sponsorisé entièrement par la boîte à eux, parce qu'on ne fait que des jeux. Les one-shots sont massivement sur la boîte à eux.
Ouais,
mais là, c'est vrai que c'était un jeu dont on voulait vous parler avant même que la boîte à eux n'en fasse une traduction.
Si tout se passe bien, il va y avoir d'autres jeu
oui, je pense.
Forgé traduit en français prochainement. Donc.
Voilà, en fait, c'est ça.
Sinon, faites un procès à la boîte à eux pour.
En fait, c'est la boîte à eux qui nous pompe nos idées.
Ils font que des jeux qui nous intéressent ici. Donc.
Bah oui, les salauds ils osent traduire des jeux géniaux. Bon. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer les trois rendez-vous de nos personnages, les trois premiers rendez-vous de nos personnages.
Ouais.
Et donc, les rendez-vous, c'est des rendez-vous amoureux. Et que dans chacun de ces rendez-vous, il va y avoir entre 4 et 6 tours. Dans un tour, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir l'un de nous deux qui va être joueur actif et l'autre qui va être guide. Et grosso modo, le joueur actif va raconter comment son personnage en vient à plaire à l'autre.
D'accord.
Et le guide va donner des dés. En fonction d'un certain nombre d'actions qui sont listées dans le jeu, chaque fois qu'il trouve que c'est effectivement...
Le dé lui plaît.
Voilà.
Autrement dit, ce qui est assez intéressant, si on veut traduire, c'est qu'il y a un joueur qui est dans une position de séduction et un autre qui est dans une position de se laisser séduire.
C'est ça.
Quand on donne un dé, ça veut dire « Oh, ta narration me séduit ».
C'est ça.
Donc en fait, c'est la narration que fait un joueur qui... qui doit être récompensé par le dé que l'autre lui donne. C'est encore une fois un parallèle avec la relation amoureuse qui est vachement bien trouvée.
Ouais, absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va changer assez rapidement. C'est-à-dire que les tours, comme j'ai dit, il y a 4 ou 6 tours dans un. Et à chaque fois, on change de place. Donc, ça, c'est quelque chose de très. Enfin, moi, c'est un autre truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est plaisant dans la mesure où on peut se dire, bon, ben là, maintenant, c'est à moi d'être actif. Je suis toujours actif, c'est le cas. Et d'autres moments, on dit, ben là, je me repose, je me laisse aller, je me laisse faire, je suis guide. C'est très, très agréable comme.
Alors,
moi, je suis assez épaté. J'ai lu le.
Alors,
le jeu.
C'est un one shot où on triche un petit peu parce que d'habitude, c'est vrai que one shot, on découvre le jeu.
Oui.
Là, c'est vrai qu'on ne le découvre pas.
Jamais joué. Mais par contre, je l'ai lu.
Frédéric.
Et ce qui m'a épaté déjà à la lecture, c'était de voir à quel point finalement l'auteur était assez judicieuse ou clairvoyante vis-à-vis des relations humaines et de voir la manière dont ça fonctionne.
Ouais. C'est-à-dire en fait, si tu penses que le game design du jeu est pensé d'une façon intelligente vis-à-vis de la situation qu'elle décrit.
Voilà, je pense que l'auteur a vraiment une vision des relations amoureuses qui est assez, que je trouve assez intéressante, juste.
Enfin, ouais.
Pour pas dire vrai.
On va peut-être dire que c'est un truc très libertaire et qu'autour de cette table, on n'est pas vraiment des conservateurs de droite, quoi.
Écoutez,
Under My Skin, c'est pas un truc.
Bon, alors le défi, c'est que.
L'importance du mariage. Shooting the Moon, deux personnes qui se battent pour l'amour d'une troisième.
Mm. Bah, sinon, on va jouer des personnalités politiques.
Non, s'il vous plaît, on nous fait déjà suffisamment de procès d'intention comme ça. François Hollande et Ségolène Royal. Stop. On arrête tout de suite là. Hein.
Oui.
On est là pour jouer.
Non.
La présentation est finie.
Presque.
Ah.
Alors, il y a deux choses encore qui sont importantes.
Fais-nous rêver.
Oui, je sais. Parmi les actions possibles pour du joueur actif pour séduire entre guillemets le personnage de l'autre, il y a évidemment ce qui met le personnage en valeur, mais il y a également d'une part ce qui met son personnage dans une situation difficile.
Ouais.
Donc, finalement, je me plante. Finalement, ça va pas. Finalement, et d'une certaine manière, le fait de montrer le personnage comme imparfait, ça renforce l'attirance.
C'est toi, Frédéric, qui me disait que dans une fiction, ça attachait toujours plus au personnage qui souffre.
Oui, c'est.
Et par ailleurs,
à ceux qu'on connaît, qu'on comprend, qui se dévoilent d'une certaine manière, et à ceux qui souffrent.
Ceux qui souffrent.
Et à propos de souffrance, chaque personnage est construit sur quelque chose qu'on appelle le conflit. Un conflit, c'est quelque chose qui fait que le personnage a du mal à aller à ce rendez-vous. Ça peut être plutôt rigolo, du genre. Là, je prends un exemple du bouquin.
Panne d'inspiration pour le.
je prends un exemple. Je prends un exemple du bouquin, c'est de devoir garder un guépard. Avec soi, qui est une référence à un film qui s'appelle L'impossible Monsieur Bébé.
Ouais.
ça peut être des trucs plus graves, moins sympas, du genre j'ai un ex très chiant. Je me suis cassé le bras, et ça peut toucher à des trucs très très durs, du genre je suis gravement malade, je suis sur le point de mourir, nos deux familles s'entretuent, qui est le conflit de
Roméo et Juliette.
Roméo et Juliette, absolument. Qui peut être je me sens pas lesbienne, qui est le problème, enfin le conflit de But I'm a Cheerleader dont on parlait tout à l'heure, enfin voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'à la fin de la partie, on va regarder, alors durant la partie, on va accumuler deux choses, on va accumuler soit de l'attirance, l'attirance qui représente la dimension physique passionnée de la relation entre le personnage de Fred et le mien, et des compatibilités. Compatibilité, c'est plutôt dans l'ordre de l'intérêt commun, de la passion commune, des trucs qu'on aime faire ensemble. Et à la fin de la partie, avec Fred, on va regarder l'attirance que nos personnages auront accumulée et leur compatibilité. On va se dire, bon alors, ces deux personnages, ils vont tenir sur le long terme.
Ils sont bons, quoi. Ouais. D'accord.
Donc, par exemple, j'ai joué une partie il n'y a pas longtemps, et puis on, à la fin, on s'est dit, en fait, nos personnages, ils vont passer de belles années ensemble.
Mais non.
Et puis, au bout d'un moment, ils vont se quitter. Bonnes amies, en l'occurrence, puisque c'était un couple lesbien.
Ouais.
Mais ça ne les empêchera pas d'avoir passé une partie intéressante de leur existence ensemble.
Ok.
Et on peut aussi se dire.
Donc en fait, à la fin, on conclut l'histoire en racontant son issue. Oui.
C'est ça.
Alors, et alors, on peut dire, par exemple, ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la mort, c'est ou inversement.
Toujours en respectant quand même l'attirance et les compatibilités.
Oui, bien sûr, bien sûr.
On peut aussi dire.
Raconter la fin en cohérence avec ce qui s'est joué au début. C'est, alors, c'est le principe du jeu de rôle, ça.
S'ils ont énormément d'attirance et très peu en compatibilité, on peut dire, bon, ben. C'est des amants réguliers, par exemple, où ils ont une relation passionnée, mais au fond très physique. Et s'ils ont beaucoup de compatibilité, mais très peu d'attirance, ça peut être, ben, ce sera des amis très forts, mais ils vont peut-être trouver des partenaires amoureux ailleurs.
Je vois que tu as amené des dés rouges, là. Alors, les dés rouges. Ils symbolisent l'attirance,
on entend bien la couleur. Hein. Bah, c'est ces dés-là qu'on va envoyer, que le guide va donner aux joueurs actifs au fur et à mesure pour signifier l'intérêt de son personnage pour l'autre.
D'accord, ok. Voilà. Bon, eh ben, allez, on y va, c'est sérieux. Ouais. On joue. À tout de suite. Bon, bien voilà, la partie est terminée. Fabien, c'est triste.
Ouais.
C'est triste.
Oui.
Finalement, Fred et moi avons décidé que nos persos
n'iraient pas plus loin.
N'iraient pas plus. Enfin, qu'ils ont. Puisque, donc, comme je disais à la fin de la partie, on décide en fonction des résultats qu'on a obtenus, ce qui arrive à au personnage. Sur le long terme.
Au couple, on va dire.
Au couple, ouais. Plutôt plus exactement. Et donc, nos personnages étaient tous les deux très engagés, avaient vraiment envie que ça marche. Et puis, ils ont essayé.
Des tentatives ratées, voilà. Avortées.
Et finalement, le.
De nombreux jets de dés qui n'ont mené nulle part.
Ouais, en fait, je pense qu'ils avaient.
Frédéric.
Qu'ils avaient tous les deux un peu des. Comment dire, peut-être pas des squelettes dans le placard, mais enfin, parce que c'est pas vraiment le terme, mais je veux dire des difficultés relationnelles qui sont différentes,
qui n'ont pas réussi à surmonter.
Voilà.
Alors, justement, pour commencer, pour nos éditeurs, est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter les deux personnages, Fabien?
Ouais.
Ton personnage?
Alors, mon personnage,
s'appelait
Julius. Sa couleur préférée était le noir. J'ai voulu voir ce que ça donnait comme type de personnage.
Donc je rappelle aux auditeurs que le noir, c'est le premier mot que Fabien a mis sur sa fiche de personnage, voilà. Avant que Fred y ajoute des mots en arborescence.
Et moi aussi,
chacun votre tour, voilà, c'est ça.
Tout à fait.
Et donc les traits que mon personnage avait, c'était d'être zen, même si je ne l'ai pas tellement utilisé, d'être noctambule. Donc
ça joue un peu quand même.
Ta zen attitude a quand même joué.
D'accord.
Plusieurs reprises, tu aurais pu t'énerver et t'es resté calme. Ouais, et Frédéric te l'a fait remarquer même.
Ça peut être plus un truc du joueur qu'un truc du...
Mais ça fait partie aussi du jeu, ça, je pense.
C'est vrai. C'est un chef d'orchestre célèbre de musique classique, un type aussi qui faisait de la critique littéraire. Je sais pas, la critique littéraire n'est pas apparue.
Et si, un petit peu dans la bibliothèque.
Exact. Ouais. Oui, donc un personnage un peu intello, qui adorait l'astrologie chinoise, et dont le conflit, ce qui le gênait dans le fait d'aller à ce rendez-vous, était qu'il était aveugle.
D'accord. Ouais, ça c'était vraiment une grosse difficulté que tu t'étais imposé.
Un
personnage aveugle.
Non, l'omniprésence, ça rajoutait quand même pas mal de à la construction des situations de manière générale. Moi, j'ai trouvé que c'était très très intéressant, très très fertile.
Ouais, c'était une contrainte créative assez intéressante, quoi, parce que Frédéric pouvait pas te décrire d'éléments visuels.
Ça. Mais du coup, on est vachement dans le sensoriel, olfactif,
le toucher.
Ça a rendu la partie très effectivement. Très sensuel.
Ouais.
Ouais, carrément.
Ça, c'était
assez chose. Intéressant.
Fred,
ton personnage.
Donc, elle s'appelle Leila. Je vais pas donner de nom de famille. Sa couleur préférée, c'est le grenat. Donc,
alors, le grenat est un rouge.
Toc. Alors, elle est d'origine méditerranéenne, féministe, plutôt. Enfin, ça a joué, même si c'était pas prenant. J'avais pas envie de le jouer étouffant de toute façon, ce féminisme. J'avais plutôt envie qu'il soit juste.
Latent.
Et qu'il transparaisse dans. Ça me permettait en fait d'éviter que ce soit une femme cliché.
D'accord.
Dans les clichés de films, je voulais pas une femme à la Pretty Woman, quoi, la Julia Roberts dans Pretty Woman.
Donc,
elle préfère être seule qu'avec n'importe qui.
D'accord, ouais.
Que mal accompagnée.
Donc elle est indépendante, on va dire.
Par contre, niveau travail, donc, elle alterne entre divers petits boulots, mais ça, on l'a pas vu, mais ouais. ça permettait quand même de me situer un peu son, je dirais son statut social, entre guillemets.
D'accord.
Elle est violoniste de loisir seulement. Donc, ce qui fait déjà un atome crochu dès le départ.
Au final, vous en êtes pas beaucoup servi de cet atome
de la musique.
Ben, c'est-à-dire que on l'a beaucoup évoqué.
Ça a été anecdotique, mais ça a été évoqué, mais ça n'a jamais
été. C'est par là qu'on a commencé quand même.
Oui, voilà. C'est,
puisque
c'était le début quand même.
Puisqu'elle assiste.
Quoi que j'ai trouvé que le début s'axait plus autour de l'astrologie chinoise finalement.
Ouais, c'est pas
c'est vraiment le moment où vous avez commencé à parler ensemble.
On va peut-être raconter rapidement les deux rendez-vous.
Oui, si tu veux.
Ouais, donc le premier rendez-vous, c'est suite à une pièce d'opéra dirigée par mon personnage. Les deux personnages se retrouvent et finalement vont manger
dans un petit boui-boui. C'est comme ça qu'ils l'ont décrit.
Après s'être promené dans les rues de Paris et Paris. Avoir échangé sur leur amour pour les vieux monuments et leur histoire.
Ouais. Ouais. Et finalement, ils vont dans une vieille bibliothèque pour lire ensemble, mais finalement c'est Leïla, donc le personnage de Frédéric, qui lit pour Julius.
Ouais.
Le deuxième rendez-vous a été, alors le premier rendez-vous s'est plutôt bien passé puisqu'on a eu de bons résultats sur nos jet
de dés. Bons résultats au jet de dés.
Et
ça a été le cas du deuxième.
Le deuxième rendez-vous a été beaucoup plus difficile pour les personnages.
Ouais, bah c'est là que tout s'est détraqué, quoi.
Ouais, parce que ils se sont retrouvés à Orléans dans un hôtel.
Ouais.
Dans lequel ils ont essayé de rapprocher l'un l'autre à la faveur d'un spa chaud et humide.
Ouais, chaud et humide.
Et finalement, ça s'est pas passé comme il le voulait.
Ni très chaud, ni très humide, du coup.
Les scènes, il y avait une tension dans les scènes, mais c'est vrai que, par contre, les dés n'ont pas été en
faveur. Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu était bien, et je pense qu'on s'est éclatés tous les deux, les jets de dés laissaient entendre, les résultats des dés laissaient entendre que les personnages, malgré tous les efforts qu'ils faisaient, n'y arrivaient pas. Et c'est ce qu'on a reflété finalement dans notre décision finale. Alors, je voudrais aussi ajouter un truc pour nos auditeurs. On n'a pas joué le troisième rendez-vous parce qu'il est 2h du matin et
qu'il fallait encore qu'on enregistre le podcast.
Il fallait encore qu'on enregistre le podcast.
C'est vrai qu'on a un peu ralenti.
On a préféré, plutôt que de finir à 6h, plutôt que de finir à 4h complètement naze et de faire un podcast merdouilleux, on a préféré s'arrêter un peu plus tôt. Bon.
Mais bon, en fait.
On a bien vu le jeu quand même.
Pour finir la description, je trouve qu'elle est incomplète. C'est que tu as finalement conclu le jeu en disant que ce qui était magnifique avec ce jeu, c'est qu'il nous apprenait qu'une relation amoureuse, ça pouvait aussi ne pas se concrétiser.
Oui. Alors, effectivement,
malgré l'envie qu'on peut en avoir.
C'est-à-dire que,
commençons par la fin.
Ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. C'est un jeu dans lequel on sent par immersion l'effort que fait le personnage pour tenter de séduire l'autre.
Ouais.
Dans la mesure où, en tant que joueur, il faut inventer des circonstances qui vont mettre notre personnage à son avantage, et qu'à côté de ça, chaque fois qu'on reçoit un dé, donc on le lance, et ça ne compte comme un succès, c'est-à-dire c'est
que sur un 5 ou plus.
Voilà.
Donc il y a une probabilité pour que, même malgré des efforts intenses, une description parfaite de ce qui se passe, le dé dise ben non, ce sera pas suffisant, il va falloir que tu ailles plus loin.
Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors le premier rendez-vous s'est passé comme sur des roulettes. On avait tous les succès qu'on voulait, même plus qu'on voulait. Autant le deuxième rendez-vous, les personnages on a fait, nous comme joueurs, beaucoup d'efforts qui se sont pas transformés.
Pour toute frustration vis-à-vis des jets de dés, je pense qu'il faut les considérer comme ce qui échappe à la volonté des personnages. Et donc, qui font que...
Parce que quand même, à plusieurs reprises, Frédéric, tu as dit que tu avais été frustré par les dés.
Oui, alors j'ai manifesté un peu sur le ton de l'humour, parce que... C'était genre ouais, ça marche, youpi, ouais. Je suis trop content, et ah, ça marche pas, bordel de...
Et pourtant tu disais, ah, c'est dommage, c'est beau, ouais. Le jet de dés ne vient pas récompenser la description. Et tu disais, ouais, que tu, ouais, toi aussi, Fabien, que, alors, ton ami avait eu des réactions similaires.
Ouais, alors de ce point de vue-là, effectivement, je crois que Fred a tout à fait raison quand il dit qu'il faut voir les échecs possibles comme ce qui est de l'ordre de l'indicible. C'est-à-dire, c'est de la relation humaine, et il y a des choses sur lesquelles qu'on contrôle, enfin que le personnage ne contrôle pas. Mmh. Après,
moi, j'avais l'impression quand même que cette frustration, entre guillemets, faisait partie du jeu et était là pour inciter les joueurs à en rajouter, à, ouais, en faire toujours plus.
Alors, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ça. Justement, ce qu'on disait, enfin, la réflexion que j'avais tout à l'heure, c'était que Breaking the Ice est finalement un jeu qui dit, parce que tous les jeux de rôle disent quelque chose sur la réalité, et c'est un jeu de rôle qui dit sur les relations humaines, ben, y a des fois, ça ne marche pas et, ouais, on n'y peut rien.
Et en fait, la mécanique pousse à...
Oui, mais justement...
Pousse à faire quand même des efforts.
Oui, voilà, des essais. Des essais.
Voilà, à essayer...
Multiplier les essais, même s'ils échouent.
Même si ça foire. Et alors, alors j'ai deux choses importantes à dire là-dessus. Donc, vraiment, je trouve que c'est un jeu qui dit, ben, les histoires d'amour, ça existe, mais c'est pas toujours facile. Alors, ouais, ça fait un peu coucou, un peu concon quand on le... ou cucu.
Concon, cucu, coucou.
N'importe quoi. Ça fait un peu cucu, donc.
Oui, 2h du matin. Hein, on voit bien.
2h. Ça fait un peu cucu de le dire comme ça, mais c'est vrai que le jeu le fait, parvient à le faire ressentir, ouais, à le faire accepter. Et alors, l'autre truc que je voulais dire, c'est que je crois qu'il est très important de ne pas forcer la fiction.
Oui.
C'est-à-dire, les règles du jeu disent explicitement, cherchez au maximum les dés que vous pouvez, n'hésitez pas à aller au maximum des dés, des possibilités du jeu. Ouais. C'est tout à fait vrai dans la mesure où il faut faire... il faut faire l'effort, en fait. C'est ça ce que je veux dire, le jeu. Il faut faire l'effort d'aller chercher les dés jusqu'au bout. Mais il ne faut jamais, surtout pas, forcer la fiction pour, importer un trait qui n'a rien à voir. Au fait, sais-tu que j'aime l'astrologie chinoise ? ça m'est arrivé dans d'autres parties. Et...
Ouais, à plusieurs, et ça marche pas, tu veux.
Et là, ça marche et là, ça détruit la fiction parce que.
J'avais une question à poser parce que ça.
Alors,
fait,
moi, je veux dire juste un petit truc par rapport à ça. Ouais. C'est que. Alors, moi, j'ai senti des fois il fallait que je dise quelque chose parce que, voilà, des fois, on est le joueur actif, et donc, on a le contrôle de la situation, si on veut. Ouais. Et donc il faut qu'on dise des choses. Il faut qu'on intéresse l'autre joueur.
D'accord.
Et en même temps, ben putain, c'est dur de sortir de soi-même. Et finalement, je trouve que ça c'est assez, ça nous remet vraiment dans la situation où bah t'as quelqu'un qui te plaît. Faut que t'y ailles, quoi. Sinon il se passera rien.
Ouais.
Et je me suis senti dans cette même situation. Et pour ça, je trouve ça très fort, même si
de stress. Tu veux dire qu'il y avait un rapport.
Faut pas se dire que joueur... tout va rouler sur, okay. va se dérouler ben, comme
si,
sur des.
Si j'avais pu jouer à Breaking the Ice il y a 10 ans, qu'est-ce que ça m'aurait aidé pour mon adolescence. les années collège sont loin. Bref, mais ce que je voulais dire,
Fabien,
mon conseil aux gens qui joueraient à Breaking the Ice, c'est lorsque vous êtes en panne d'idées ou lorsque vous avez peur de ne pas être cohérent, de se remettre dans la peau du personnage. Alors, de se dire, mon personnage, dans telle situation, qu'est-ce qu'il ferait, lui ? Qu'est-ce qui lui semblerait naturel de faire pour séduire l'autre ? Et sachant qu'il y a une règle qui est vachement importante là-dedans, c'est qu'on peut s'ajouter, quand on veut, des traits. Dire, en fait, mon personnage, il sait aussi faire ça.
Ouais.
En général, si ça tombe bien avec la situation, ben c'est vachement pratique.
Frédéric, tu veux revenir ?
Le jeu est en fait quand même assez facile d'accès. Je pense qu'il demande de faire des efforts. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit chemin tranquille.
Mais tous, on en est capable de faire ces efforts.
Je crois, oui.
Ce n'est pas des efforts impossibles.
Tout à fait. Et... ouais, donc
ça demande pas de jouer quelqu'un dont on ne connaît rien. Ça demande de retrouver les ressources de séduire quelqu'un, ce dont tout le monde est capable a priori.
Oui, et puis en plus, on a tendance même à puiser dans nos propres...
Complètement, même.
Voilà, même les histoires qu'on connaît ou quoi, sans faire d'efforts à ce niveau-là, je pense que c'est pas très compliqué.
Sa propre vie, quoi.
Ouais, tout à fait. Frédéric.
Et je serais... Enfin, ouais, il y a par exemple des scènes qui m'ont marqué dans ce qu'on a joué. Je pense par exemple la scène où... alors, le personnage donc, de Fabien, donc Julius, cherchait un livre qu'il voulait montrer à Leïla. Et il voulait utiliser un casque audio pour pouvoir partager la lecture de ce livre. Et le problème, c'est que son casque audio ne marchant pas, il s'est énervé, il l'a balancé. Et
alors, en termes de mécanique, ça m'a permis de mettre en scène mon conflit, ce qui m'a donné 3 dés supplémentaires.
Tout à fait. C'est qu'en fait, on gagne des dés quand on crée une...
Une situation de séduction, mais aussi quand on crée une situation de faiblesse.
Exactement.
C'est-à-dire quand on met son personnage dans une situation où il est mal à l'aise, c'est-à-dire volontairement on se fait du mal, si j'ose dire, ou en tout cas on met son personnage dans une situation où il est mal à l'aise, on gagne des dés aussi.
Donc, enfin, c'est génial. On relance les dés qu'on a gagnés qui ont échoué, mais ça c'est très très bien. Vraiment, ça crée...
Et ça c'est génial parce qu'en fait, ça permet d'éviter que les personnages soient enfermés dans un bonheur BA où tout va bien, où ils arrêtent pas de se mettre à leur avantage. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que on échappe au mièvre, on échappe au cucu.
Je voulais quand même te poser une question.
Et attends,
laisse-moi faire.
Et ça, c'est vachement important que dans une histoire d'amour, on puisse parler.
J'aimerais bien juste arriver au bout de la scène que j'étais en train de décrire.
Ouais, vas-y.
À ce moment-là, donc, Leïla a pris d'autres livres. Et a commencé à lui en faire la lecture. Et elle a choisi des livres en arabe qu'elle lui a lus, alors que lui-même ne connaissait rien à l'arabe. Et du coup, ça a donné, quand on parlait de sensualité, là, c'était auditif, dans le sens où, alors bien sûr, moi, je n'ai rien dit en arabe du tout, mais je lui ai décrit les sonorités de manière à créer vraiment, à entrer dans la sensation, et la séduction est passée par ça, par cette relation-là, qui pour moi était très belle, très, très poétique et très, très sensible.
Ça,
aussi.
C'est un choix esthétique que tu as fait.
Bien sûr.
Je ne pense pas que le système encourage les gens à nécessairement faire ce genre de choix esthétique. Tu vois ce que je veux dire ?
Je me souviens très bien de
la partie qu'on a joué avec Christophe de Breaking the Ice. Il n'y avait absolument pas ce genre de situation. On jouait un espèce de truc à la American Pie. Voilà quoi, à la fin on a niqué sous un préau et puis basta quoi. Enfin...
Sauf qu'on n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas choisi de jouer un personnage non-voyant. Donc il y a quand même les éléments.
Enfin, on a
choisi.
Quand même regardé des étoiles et tout, il y avait des beaux moments. Mais, c'est.
Non, mais c'est-à-dire que ce qu'on choisit pour créer les personnages influe quand même sur le déroulement de l'histoire. On avait choisi de jouer Chapi et Chapeau, et ben peut-être que ça aurait pas donné du tout la même histoire.
Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que les règles amènent vraiment à faire des efforts très grands, et donc à aller chercher au maximum, tout en respectant toujours la cohérence. Ce qui fait que ça, c'est vraiment de l'ordre de la contrainte créatrice. Et que, par exemple, dans ce qu'il y avait de beau dans cet échange, c'est que les deux étaient musiciens.
Ouais.
Et donc ça leur parlait à un niveau qui était supérieur. Et donc je pense que d'une certaine manière Fred a cherché à trouver un moyen de communication, de séduction entre les deux, et que la musique s'est plus ou moins imposée à lui comme un moyen.
Tout à fait.
À plusieurs reprises pendant la partie, Frédéric a oublié de te donner des dés, Fabien, et tu lui as fait remarquer, ou alors tu lui as suggéré, tu lui as dit oui, il faudrait peut-être que tu
me
donnes
pourtant,
un dé.
Et pourtant, je suis habitué à cette technique.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que ça... Alors que toi, Fabien, tu lui donnais des dés assez facilement.
Ouais, alors il y a
peut-être à moi de répondre d'ailleurs.
Fred, Fabien, enfin Fred.
Enfin, si tu as quelque chose
moi,
à dire.
Moi, j'ai une réponse qui est toute simple. C'est la première partie de Fred, et il faut que.
D'accord. Justement, je voulais t'interroger sur ta première partie de ce jeu aussi. Est-ce que c'est aussi bien déroulé que celle-ci ? Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, je t'explique pourquoi je te demande ça. Parce qu'à plusieurs reprises, tu dis, tu as dit pendant la partie, ah oui, mais attention, si on fait ça, autrement dit, si on en parlant d'une mécanique de jeu, par exemple mettre des dés, donner des dés, faire je sais pas quoi, si on fait ça, c'est pas bon pour le jeu. Donc ça sous-entendait que tu avais déjà fait des tests avant avec Guillaume. Par exemple, à un moment donné où tu as mis les dés de chaque côté, c'est quand tu as expliqué après le système des dés, tu as mis un dé d'un, un groupe de dés d'un côté, un groupe de dés de l'autre. Oui, mais il y a d'autres moments où il a été plus loin, où il a dit par exemple, alors je sais plus exactement quand c'était, c'est au niveau des scènes de rendez-vous. En fonction de des dés relançables ou je sais pas quoi, il a ajouté des règles en fait. Je me demandais.
Ouais, en fait on c'était une question d'interprétation des règles.
D'accord.
Notamment du fait que les règles proposent deux manières de faire. Grosso modo, soit on accumule tous ces dés, on les lance à la fin et ensuite on fait les relances.
Voilà.
Et après éventuellement on utilise le conflit et les compatibilités.
D'accord.
Ou alors on lance les dés les uns après les autres, chaque fois qu'on les reçoit.
Mmh.
Et je disais à Fred que, et je le pense toujours, je pense que la deuxième méthode est nettement supérieure.
Donc où tu donnes les dés...
Parce que dès qu'on le reçoit le dé, on le lance.
Ouais.
Ce qui veut dire que, par exemple, on peut alterner, je lance un dé, et puis ensuite je fais une action qui met mon personnage dans une situation délicate, donc je relance. Et puis ensuite je me dis, ah ben tiens, ça tombe bien, j'ai utilisé mes dés de conflit, etc., etc. Ce qui fait que ça...
Ça c'est intéressant pour nos éditeurs de le préciser.
Ça donne une plus grande subtilité aux scènes, et puis ça enlève cette contrainte de dire hey, je fais toutes les scènes où ça se passe bien, je lance mes dés, je fais toutes mes relances, et puis
D'accord. Ouais. Pourquoi t'as oublié de donner des dés, Frédéric?
Alors, étonnamment, en plus, comme j'ai moi-même un jeu où on donne des dés en fonction de notre appréciation, je suis habitué à cette mécanique, mais en réalité, la relation à la fiction est très différente. Parce que, en fait, bon, déjà, ça se joue qu'à deux, donc ça veut dire que, on est obligé tous les deux d'être un peu, d'être au taquet, hein.
D'être bien réveillé, quoi.
Et,
beaucoup d'efforts.
Ouais, même si le guide a beaucoup moins d'activité, puisqu'il ne contrôle pas le déroule, enfin, c'est pas un contrôle vraiment, mais il ne dirige pas la scène.
Ouais.
Et donc, il a beaucoup plus de temps et de cerveau, en fait, pour réfléchir à donner les dés. Mais le truc, c'est que dans le don de dés, moi, j'étais dans la scène, quoi.
Donc, tellement en contemplation, en fait, devant la scène que t'en oublies les
techniques. Oui, et puis à réfléchir, à me dire, comment est-ce qu'on peut réagir à ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour la scène d'après? Qu'est-ce que je peux...
D'accord.
Et, alors, je planifiais pas, mais c'est juste que ça me faisait tellement gamberger que les dés qui étaient devant moi, ils avaient beau être rouges et voyants, ils n'existaient plus.
C'est un oubli, finalement, plutôt positif. Ça veut dire que t'étais à fond dans le jeu.
J'étais
immergé dans la fiction que te racontait Fabien.
Mais j'ai pas eu l'impression que ça nuisait à la partie que
absolument
je te dise.
Absolument pas.
Tiens, je pense que là, ce serait bien.
Non, mais de l'extérieur, c'était bizarre. Parce qu'à chaque fois, on avait l'impression que tu t'auto-congratulais du coup. Oh,
je suis tellement génial.
Comme la scène, elle est belle.
Oui, c'est vrai. Cela dit, le sens critique de Fred n'était pas
annulé
pour autant.
C'est vrai. Il y a plusieurs reprises, il a dit « Oh non, j'estime que tu devrais aller plus loin. »
Et moi, je l'ai fait aussi à d'autres moments où j'ai dit « J'aimerais bien que tu développes encore un peu ça. » Ce qui est intéressant parce que c'est une forme de négociation sur le don de dés.
La manière dont on peut faire des suggestions et des conseils à l'autre, ça, c'est très important parce que sinon, le jeu se joue un peu comme... deux blocs durs qui c'est chacun un
ça
peu
terme,
chacun leur tour ça devient il y a aucune porosité entre les emprises que chacun a sur la fiction, alors que si on fait des suggestions, des conseils à tout moment, par exemple à un moment Fabien me fait une narration et puis il me dit si tu veux tu peux me donner un dé, puis moi je lui dis pas encore parce que ça me paraît à peine effleuré. Je préférerais que tu développes la manière dont ton personnage appréhende.
Comment c'est décrit ça dans le jeu, Fabien?
Alors justement, je voulais en parler. Ça, le jeu est très précis sur ce qu'il faut, enfin plutôt précis sur ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est une bonne idée de s'appuyer sur les règles pour dire, tu vois, ton ouverture de scène, normalement, ça nous est arrivé plusieurs fois. Ton ouverture de scène, ce serait bien que, comme dans les règles, tu fasses quelque chose qui rende ton personnage plus attirant.
D'accord.
Je crois que c'était quelque chose comme ça.
Oui.
Et donc, ça permet de dire à l'autre, sans être gêné, va un peu plus, fais un effort supplémentaire, sans être le mec relou qui dit hey, pour avoir attendu.
T'as intérêt de m'aiguiger davantage.
Alors, par contre, c'est vrai que c'est. Alors. j'ai pas trouvé ça gênant dans l'absolu, mais l'incitation à agir dans un sens est parfois un peu énorme, quoi. C'est-à-dire, au début de chaque scène, celui qui est le joueur actif, bah, doit d'entrée de jeu être dans la séduction.
Si, oui, mais
c'est pas obligé, mais bon, quand tu mets 3 ou 4 dés en jeu, tu...
J'entends bien ce que t'as raison. J'entends bien ce que t'as raison.
Ouais. Pardon.
Mais oui, bien sûr. Ah, tu l'admets. Tu l'admets.
T'entends bien ce qu'il a raison. Donc.
Ouais.
Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que t'entends bien ce qu'il a raison ? Ah, c'est bon de t'enregistrer des podcasts à 2h20 du matin.
Tu me couperas
ça. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Parce que je t'avais dit qu'à un moment donné...
Mais oui, bon, attends, laisse-moi reprendre. Donc, oui, t'as raison Fred. Et c'est vrai qu'il faut... Il y a toujours cette injonction à séduire en début de scène.
Oui.
Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que c'est pas une injonction.
C'est une obligation.
Si, c'est une. À mon avis, c'est une obligation, même si. Enfin, c'est vraiment très utile de le faire. Ne pas le faire, c'est très dommage pour le jeu.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de moyens différents de le faire. Le jeu est très, 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 très ouvert sur ce que ça signifie être. Pour les relances, la phrase, c'est il faut mettre votre personnage dans une situation délicate. Ouais. Alors, les situations délicates, il peut y en avoir de tous les genres. Et pareil, plusieurs fois, je me disais, merde, je sais pas comment faire pour que mon personnage agisse ou dise quelque chose de manière plaisante. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave, en fait, je vais simplement décrire mon personnage, dire, voilà, il a telle odeur, à un moment, il y a une scène de sexe assez explicite. et j'ai décrit la chaleur de la peau de mon personnage qui était excitée, son odeur, sa douceur,
Justement,
et donc ça va aller tout à fait pour une manière de rendre le personnage plus séduisant.
Toutes ces imprécisions, toutes ces incertitudes au niveau des règles renforcent l'immersion qu'on peut avoir dans le jeu parce que du coup c'est nous en tant que joueurs qui sommes amenés à juger ce qui est avantageux, ce qui est désavantageux, ce qui nous séduit, ce qui nous séduit pas. Finalement lorsque Frédéric te donne un dé, c'est Frédéric qui est séduit par ta narration et pas son personnage.
Absolument.
Et c'est là que on peut vraiment parler d'une excellente synesthésie dans ce jeu, c'est que toutes les actions.
Je n'osais pas employer le terme.
Faudra que tu nous expliques ce que c'est que la synesthésie.
Bah, j'arrête pas dans les podcasts. Alors, si vous nous écoutez, si vous n'êtes pas vos propres auditeurs.
Je peux faire un rappel.
Vas-y, Fred.
La synesthésie.
Alors, tout simplement, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les situations fictives.
Tu nous fais pas une conférence.
Non. Les situations fictives, donc les situations de la fiction, pour moi, ne véhiculent pas suffisamment d'émotions, ne placent à elles seules pas suffisamment d'enjeux pour suffire à impliquer les participants.
Joueurs.
Donc, un jeu comme Breaking the Ice. Oula, je me la joue là, pardon.
Breaking the Ice!
On the rocks. en fait. Comment dire
amène le crée, joueur
voilà, crée à, des méca- à enfin, ressentir... propose des mécaniques qui créent une situation, des enjeux en fait ludiques, donc mécaniques pour le joueur qui
sont très proches
voilà,
ce que peut ressentir le personnage à ce moment-là.
Exactement.
Les enjeux
donc,
du
exemple,
personnage et du joueur.
Je vais vous donner un exemple. C'est quand par exemple
Frédéric.
Il y a des moments par exemple où on est en position finalement de recevoir des dés parce qu'on se met en position de séduire l'autre.
Oui.
Et ben tout simplement ça fonctionne d'une manière tout simple. Hein. C'est si je veux augmenter mes chances de réussir à créer une relation durable.
Oui.
Et ben il faut tout simplement que j'essaie de séduire l'autre. Mais comme la situation ne le permet pas toujours. Ou ça, des fois, finalement, on a plutôt envie de dévoiler les faiblesses de notre personnage parce que déjà, c'est cool pour l'histoire. En plus, ça amène des rebondissements plutôt intéressants. Et de cette manière-là, on peut lancer tous les dés qu'on a déjà eus qui ont fait de mauvais scores. Donc, en tant que joueur, on est souvent un peu... on a le choix entre simplement développer l'histoire ou essayer de séduire l'autre joueur ou révéler des faiblesses, aller sur se mettre en difficulté. Et tout ça, en fait, ça crée une situation que je trouve assez En tout cas, bon, par rapport à mon expérience personnelle, assez proche. C'est une situation d'équilibriste assez proche
de l'expérience d'équilibriste qu'on a lorsqu'on est en séduction avec une femme.
Exactement.
Jusqu'où est-ce que je vais, jusqu'où est-ce que je m'arrête, jusqu'où est-ce que je me montre faible et donc mignon, mais en même temps, etc. Enfin, il y a des choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui te fait marrer?
Et sans forcément entrer dans la faible manipulation.
Mignon. Oui, oui. Bon.
Non, mais c'est toi-même, par exemple, Fabien, qui disait que dans une conversation, par exemple, il y a différentes positions qu'on peut adopter. La position haute et la position basse. Et que c'est deux stratégies qui, parfois, alors se valent.
Et se dévoiler, en fait, ça. Finalement, c'est aussi fort que se dévoiler ses faiblesses, par exemple, c'est aussi fort que finalement se mettre en avant, se mettre en valeur.
Carrément, parce que ses faiblesses sont aussi ses richesses au final, au fond. Oui. Quand, par exemple, je prends l'exemple de la scène où vous êtes dans la bibliothèque et où ton personnage, les yeux baissés, la voix justement allant vers le sol, décrit sa faiblesse au personnage de Fabien, elle a aussi la sensation qu'elle est en train de dévoiler quelque chose de très profond en elle et donc quelque chose de quelque part qui lui donne une valeur, une identité. Oui. C'est... Donc, faiblesse et force sont très proches à ce niveau-là. Ouais.
C'est un peu qui tout double, mais en même temps, c'est. Enfin, pas dans les mécaniques, remarque. C'est toujours avantageux de dévoiler une faiblesse. Ouais. Ça peut, de toute façon, avec les dés, se répercuter de manière négative.
Donc, c'est vrai que les termes du jeu sont bien choisis parce qu'ils laissent aux joueurs la possibilité de les interpréter de manière à vraiment s'investir. À plusieurs reprises dans la partie, vous avez dit je me sens très proche. De moi-même finalement et le personnage me ressemble beaucoup.
Ouais, c'est un jeu qui a la puissance d'amener à toucher les choses très intimes et à amener les choses très intimes en toute sécurité.
À tout le sens du terme.
Oui, parce qu'on Fred dit ça parce qu'on a décrit des scènes très très explicites entre nos deux personnages, mais si Fred et moi on n'avait pas été de bons copains et si on n'avait pas eu la confiance qu'on a, si c'était la première fois qu'on se rencontrait, on aurait pu aussi dire les règles du jeu le prévoient et ça c'est bien. Elles disent
carré blanc quoi.
Voilà, vous pouvez dire jusqu'où le sexe est explicite dans le.
On coupe la scène. Bon, dans, bah là on sait qu'ils font l'amour, mais c'est pas décrit.
Ou même ils font pas l'amour, le plus loin qu'ils peuvent. Enfin, il n'y a pas de sexe du tout.
Ok, ça marche.
Même pas implicite.
Juste pour illustrer l'histoire des mots là, comme ça qu'on peut interpréter. Par exemple, quand on dit se montrer à son avantage, par exemple, montre-toi à ton avantage ou séduis-moi. Je pensais à un exemple qui me vient là, c'est la personne costaud par exemple. Être à son avantage, par exemple, quand on est costaud, ça peut être faire le fort, faire la brute, ou inversement, ne pas se servir de sa musculature dans une situation où on attendrait que... Tu vois, enfin, il y a plein de manières de...
C'est très vaste. Le jeu, en laissant cette ouverte, il y a...
Séduis-moi, quoi.
C'est ça. Alors, le jeu, en fait...
Faut se poser la question, qu'est-ce qui va séduire l'autre joueur en face, quoi. C'est ça qui est...
La mécanique de fond du jeu est, en fait, extrêmement subtile et intelligente, puisqu'on a... Cette pression à rendre son personnage séduisant par plein de moyens possibles. Il y a cette ouverture énorme qui pourrait presque sembler être effrayante d'une certaine manière, mais les deux, l'un avec l'autre, font que ça nous pousse à faire des efforts d'imagination et puis à chercher
ce que l'autre va
et donc,
aimer en fait.
Ouais, voilà. Tout à fait, comme tu disais tout à l'heure par rapport à la scène de lecture.
Pas ce que Julius va aimer.
Mais Fabien à travers son personnage.
Ouais. Non, je suis pas d'accord. Non, justement. Justement. Alors là, on peut entrer en débat parce que par exemple, moi, je sais très bien que par exemple, toi, t'es féministe, d'accord. Bon, imaginons, moi, au contraire, je suis plutôt, on va dire, sexiste et puis macho. Bah toi, si tu veux me séduire, tu vas être obligé dans ta description de faire des descriptions machistes.
Toi comme.
Et moi, inversement, je vais être obligé de décrire des scènes dans lesquelles je vais volontairement ne pas utiliser de termes qui montrent la domination masculine sur les femmes parce que je sais que ça va pas te plaire.
Je suis pas d'accord. J'ai quand même la j'ai la prétention de dire que si je dis bon ben ce soir je joue un personnage macho ou affreusement sexiste.
Oui oui d'accord.
Tu vois ce que je veux dire.
Oui d'accord tout à fait. Mais dans le cas où par exemple moi je joue.
Enfin c'est à dire que même si par exemple Fabien joue un personnage sexiste et moi je me souviens macho je crois que je serais.
Alors je veux pas dire.
Il pourrait apprécier une scène où il se passe quelque chose qui est contradictoire par rapport à la tendance de son personnage.
J'ai un exemple.
Comme il peut finalement dire bon bah ça devrait plaire à mon personnage, même si je pense quand même que ce que le joueur ressent prime quand même de toute
Fabien,
façon puisque
je crois que ton exemple malheureusement est pas très bon parce que je sais pas si les
j'ai un exemple tiré de parti là hein.
Ouais attends ouais. Je parce que les tout ce qui est de l'ordre de l'idéologie n'a pas le même impact émotionnel.
Ben peut-être, mais à un moment donné, par exemple, Frédéric a fait une suggestion pour son personnage. Il a dit moi, en tant que femme, j'aime beaucoup le sexe et la relation sexuelle. Il attendait à ce que ça plaise à ton personnage. Et toi, parce que tu as, en tant que Fabien, jugé que c'était un préjugé des relations hommes-femmes. Que,
tu m'as mal interprété.
Et,
parce que c'était.
D'accord, ok.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, je ne l'ai pas vraiment dit comme ça. J'ai dit que le sexe était important.
Pas en tant que femme. Et par ailleurs, j'ai joué un personnage qui était un peu gêné vis-à-vis du sexe. Mm. Et donc je poursuivais mon.
Donc c'est peut-être un mauvais exemple, mais je suis sûr que bon là j'ai pas envie de faire des gros blancs dans ce podcast pour y réfléchir, mais je suis sûr que je pourrais trouver d'autres exemples où t'as dit non.
J'ai quand même l'impression que c'est l'appréciation du joueur qui.
Oui, c'est sûr et certain. J'en suis sûr.
Je suis pas sûr que ce soit aussi.
Eh bien à vous de tester chez vous. Absolument. Et de dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Excellente idée.
J'aimerais revenir par rapport à la scène de lecture dont j'ai
Frédéric,
parlé tout à l'heure.
Oui.
Tu me disais que c'était pas le jeu qui nous avait amené là, mais en fait, comme disait Fabien tout à l'heure, le jeu déjà nous met dans une situation de séduire l'autre. Donc ça veut dire qu'on va pas dire des âneries quoi. Ou alors au bout de deux minutes ça fonctionne plus, on joue à autre chose.
Ou alors il faut que ce soit dans le genre qu'on a choisi au début.
Voilà,
on s'était dit qu'on jouait plutôt sérieux
là. Comme disait Fabien ou je sais plus si c'est toi Fred qui disait ça ressemble vachement finalement à Lost in Translation.
Ouais,
c'est vrai qu'en écoutant votre partie c'était clair. On voyait des gens qui se promenaient en silence dans la ville lorsqu'ils parlaient
dans
la nuit
dans des chambres d'hôtel de luxe.
Il y avait aussi cette histoire de la langue qui était très importante puisque vous insistiez énormément sur les mots parce qu'il y avait un aveugle et donc vous ne pouviez pas décrire des scènes visuelles. Mm. Donc vraiment, oui, ça faisait vraiment du Lost in Translation. Là, pour le coup, c'était clair.
On était bien
dans cette esthétique-là. Ouais. Et puis vous aviez choisi ça. Donc oui, c'est vrai que pas d'humour. Quoi. Mm. Mais
on aurait pu le faire.
Vous auriez pu le faire. C'est prévu par là. Mais bon, encore une fois...
Si, il y en a eu de l'humour. Oui.
Oui. Quand ça, Fred?
Par exemple, la scène où mon personnage est tombé dans la rivière, c'était.
Ouais, alors justement,
c'était entre les deux.
Ça, c'était limite. Là, j'ai dû me forcer pour pas le voir comme un retournement de comédie romantique.
Oui, après, ça dépend comment on le poursuit, c'est vrai. Il y a eu aussi.
C'est pour ça que j'ai dit que c'était en hiver et que ton personnage était mort de froid.
En fait, je dirais que c'était pas de l'humour potache, on rigole, mais il y avait des moments où, ça m'a fait sourire.
Ouais.
Quand même, c'est.
Ouais. Par le caractère, par la situation.
Exactement.
Mais bon, c'était pas volontairement drôle, quoi. C'était.
Ouais. C'est plus que c'était touchant, plus que.
Ouais, voilà, peut-être.
Oui. C'est-à-dire que. Alors bon, évidemment cette partie n'est pas le meilleur exemple parce que nos personnages on finit un petit peu frustrés. Mais c'est quand même un jeu, et ça je le répéterai jusqu'au bout du bout, qui a le mérite de faire jouer des personnages qui sont heureux, qui sont amoureux, qui sont touchants.
Ouais.
Et ça c'est vraiment une vraie force du jeu.
Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, c'était donc par rapport à cette histoire de comment le jeu nous aide, en tout cas, à créer des choses intéressantes.
Ouais.
C'est qu'il y a à la base
et
déjà...
Et proche de vous aussi. J'insiste qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question. Je vous ai demandé comment est-ce que le jeu mettait en place... Pourquoi vous vous sentiez proche de vos personnages ?
Je finis juste ce petit truc. Donc, en effet, il y a déjà le fait que le jeu incite à... à séduire ou en tout cas à plaire à l'autre joueur. Mais en plus, on a sur la fiche des traits de personnages qui nous aident aussi, qui nous donnent un terreau dans lequel on peut piocher des idées. Mmh. On peut aussi puiser dans les traits que l'autre a créés pour créer une situation qui va nous rapporter des dés, etc. Mmh. Et je dirais que j'ai eu un léger sentiment par moment que c'était pas artificiel dans le sens où nous, on en faisait quelque chose d'artificiel, mais parfois... Je me suis senti un peu forcé, mais comme je disais, ce côté forcé rentre dans la position de la séduction. Ouais. Voilà. Et donc, ce que tu disais...
Par rapport au rapprochement entre vos personnages et vous-même. À un moment donné, Frédéric, t'as arrêté la partie, t'as regardé dans le vide et t'as dit « Mais bordel, mais je suis en train de me jouer, là !»
Oui.
Alors que pourtant, t'es pas une femme, par exemple.
Je suis pas une femme, je suis pas une femme marocaine, j'ai pas...
Et Fred et moi avons des relations de franche camaraderie virile, mais,
oui.
Mais il est marié, mais moi, je suis en couple très heureux.
Oui, tout à fait.
Voilà, vous n'êtes pas dans une relation homosexuelle, donc rien à voir, évidemment, avec Exactement. Vos vraies identités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, justement... Où tu penses les mécaniques du jeu amènent à ce genre de situation?
Par exemple, la position de mon personnage par rapport à sa relation au travail. Ouais. Alors ça, on ne l'a pas énormément évoqué, mais c'était néanmoins important. Et puis aussi dans la relation à ton personnage, en fait. Il y avait quelque chose qui me rapprochait pas mal. Donc
comment tu penses que c'est arrivé sur le tapis, quoi? C'est par hasard ou alors non, et
je me suis demandé à un moment donné, tu as fait exprès de choisir un personnage non voyant ou...
Moi je me suis demandé à un moment donné si c'était pas dû à l'échange de fiches que vous aviez fait au début pour noter chacun votre tour des mots.
Si je prends les mots qui sont sur la liste, ils sont pas forcément
en rapport avec
moi directement, parce que c'est juste des mots après tout. Ouais. Mais ce que j'en ai fait en trait. Et la manière dont finalement j'ai commencé à percevoir mon personnage, même à un moment Fabien m'a dit j'ai l'impression d'avoir que Frédéric devant moi j'ai le côté féminin de Frédéric.
Ouais,
quoi.
Ouais, d'accord.
Donc et moi aussi j'ai ressenti un peu ça, sans dire que demain je suis drag queen, mais
non, mais le queer c'est très bien.
Fabien, j'avais une question à te poser à plusieurs reprises. T'as dit bon sang, quand on regarde ce jeu, on sent bien qu'Émilie Kerbos est une libertaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, on a déjà parlé tout à l'heure du fait que Shooting the Moon et Under My Skin n'étaient pas exactement des jeux sur le mariage chrétien.
Conventionnel, on va dire.
Conventionnel.
Occidental.
Occidental. Alors.
Qu'est-ce que tu entends par libertaire? C'est quoi un libertaire?
Tu me poses une question difficile.
Ah, c'est dur, ouais.
Bon,
surtout un libertaire.
Alors je suis pas spécialiste de la question, donc je.
D'accord, mais en gros.
J'ai balancé le mot comme ça, mais l'idée, le libertaire pour moi, c'est celui qui met qui place avant toute chose la liberté de l'être humain.
D'accord.
C'est-à-dire le fait de ne pas s'encombrer
De normes sociales extrêmement fortes, Exactement. Extrêmement poussées, quoi.
Et donc quand on parle de sexualité, les conventions sociales, c'est la sexualité pour fonder une famille, c'est la sexualité monogame, c'est la sexualité de l'homme qui domine la femme, c'est la sexualité hétérosexuelle, évidemment, surtout pas homosexuelle, mon Dieu non. C'est la sexualité...
C'est en train de changer ça quand même, dans les mentalités, de plus en plus.
Si on regarde
les sondages, en tout cas c'est évident.
Le mariage homosexuel est toujours pas
mais ça va pas tarder, t'en fais pas.
Bref, donc voilà pour libertaire. En quoi ce jeu me donne le sentiment d'être un jeu libertaire?
C'est par rapport aux thématiques qui sont abordées, la manière dont non normée dont c'est abordé, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une part la rencontre, les petites fleurs bleues, et puis ensuite, dans l'ordre, alors je ne sais plus, dans l'ordre, c'est la fellation. C'est ça, quoi.
Oui, alors effectivement, il y a un truc, on s'en est rendu compte en créant nos persos, à quoi moment le jeu dit alors demandez-vous quel sera le genre de vos personnages? Si ce sera deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme.
Ouais.
Et ça, c'est vachement fort parce que ça veut dire. En fait.
Allez explorer ce qui vous intéresse.
C'est ça. Oui, c'est ça. Allez explorer ce qui vous intéresse. Et...
Comme ce n'est qu'un jeu de rôle, justement...
N'oublie pas ton micro.
Oui, pardon. Comme ce n'est qu'un jeu de rôle, justement, bah, c'est d'autant plus tentant d'aller explorer...
Et par ailleurs, bon, alors, ça, c'est un petit peu cucu.
Oui, très bien.
Mais
je t'en prie.
L'amour chez Emily Kerbos se fonde quand même sur, d'une part, l'attirance, il y a quelque chose d'ordre physique, et d'autre part, la compatibilité.
Mmh. Et non pas la comptabilité.
Oui, je sais. J'ai eu le malheur de faire ce lapsus tout à l'heure, ils me l'ont pas pardonné. Donc, au fond, si on s'aime, c'est parce que non seulement on a envie de coucher ensemble, mais qu'en plus on a des super trucs à faire quand on couche pas ensemble.
Et en même temps, l'attirance n'est pas que l'attirance sexuelle.
C'est vrai, c'est l'ordre de la passion. Mais.
De la psychologie.
Bon, ça de ce point de vue-là, c'est peut-être le côté. Enfin, qui me paraît le moins plaisant du jeu, mais en même temps, je comprends pourquoi ça a été fait, dans la mesure où il y a une certaine simplicité de se représenter la relation amoureuse à travers les choses, ce que partagent les deux individus, et puis l'étincelle qui se produit quand ils se touchent. Quoi.
Ouais. C'est vrai que moi, la compatibilité, j'étais un peu déçu. Sur ce point-là, on n'en a noté qu'une, parce que du coup, c'est vrai que c'était... Enfin, moi, j'avais pas trop envie d'en noter d'autres. C'était un intérêt commun pour l'histoire des villes.
Ouais. L'histoire mais, bon, ça dit, ça tombait bien.
Ça tombait bien, parce que c'est ce qu'on a développé. Alors, mais franchement, on peut dire on aime tous les deux faire du squash ou du ping-pong.
Alors, là aussi, pour que ça...
Ça me paraît pas être plongé au fin fond de...
Ça, de loin, je pense que c'est peut-être une des faiblesses... Une des rares faiblesses de fond du jeu. C'est une faiblesse, ça ne veut pas dire que c'est une faille. Hein. Le jeu est très, 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 très bien par ailleurs. Ouais. Oui. Et ça, nos auditeurs ont compris que j'adore.
Oui, je crois que tout le monde a compris ici que vous êtes tous les deux engagés.
Mais là aussi, je crois que ce n'est pas difficile de faire que cette compatibilité devienne autre chose. Parce que justement, le jeu n'est pas très enfermé.
Ouais, c'est-à-dire, qui dit squash dit sueur, qui dit sueur dit...
Parce que mais il est déchaîné.
Ah bah oui.
Il faut pas lui donner du sucre. Non, ce que je veux dire, c'est
la
que
bière.
Évidemment, on peut réduire ça à des listes de hobbies, un peu comme
attirance pour la bière,
comme ce qu'on trouve en bas des CV, genre. J'aime faire de la plongée, j'aime faire de la randonnée, j'aime faire. Ça rend c'est le CV de notre relation. Ouais, mais je suis sûr qu'on doit pouvoir faire des compatibilités qui sont un peu plus classe. Du genre, je sais pas, on aime écouter, on aime lire des traductions de bouquins ensemble.
Enfin, en quoi c'est mieux que la randonnée, excuse-moi.
Justement, ça fait moins hobby de battre.
Randonniste,
ça fait moins
qui nous écoute.
Ça fait moins hobby de battre CV.
Ça fait moins hobby de la randonnée.
Dans une autre partie que j'avais jouée, une des compatibilités qu'avaient nos personnages, c'était faire l'amour dans des lieux inhabituels. Ça, on est d'accord, c'est pas un truc que tu mets en bas d'un CV, hein. Ça dépend
dépend d'où tu vas.
Ça dépend du poste auquel tu postules. Mais
Marc Dorcel, si tu nous écoutes, je suis disponible.
viens faire un podcast sur la cellule.
Non, mais attends, ça dépend carrément de. Enfin bon.
Ce que je veux dire, c'est que on peut faire. Sûr, évidemment, c'est pas le jeu est peut-être pas très fin là-dessus, mais on peut faire un effort pour trouver des trucs. Oui. Parce que le jeu ouvre.
Ouais, voilà.
Et
en
fait, pas.
On peut faire un effort si on en est enfermé.
Comme il est écrit dedans, on peut jouer Marie à tout prix.
Voilà.
C'est ça. Ou comme on l'a fait là.
D'ailleurs, moi, comme vous l'avez fait là, moi, j'y joue pas.
Lost in Translation, quoi.
Pour moi, je serais trop pudique pour jouer à un jeu comme ça. J'y jouerais pas.
À cause de la dimension explicite. Du sexe
Non, pas la dimension explicite du sexe. Vous avez sinon, été trop loin dans les relations.
Sinon, tu
tout,
choisis comme trait. Je suis un Bugs, je suis né en...
Bientôt, Breaking the Sense. Breaking Rebirth.
Pas du tout. Non, mais franchement, c'est trop. Enfin, là, ça allait trop loin, typiquement. Et puis la scène de sexe, alors là, j'aurais carrément décroché, quoi.
Ouais, alors ce qu'il y a aussi, c'est que Fred et moi, on aime bien creuser les relations humaines.
On n'a pas de pudeur entre nous. Alors moi, j'en ai avec d'autres. Récemment, par exemple, j'ai fait une partie d'un de mes jeux. Ouais. Et c'est parti en scène de sexe. j'ai complètement, je fais une ellipse sur la scène de sexe parce que bah, la personne avec qui je jouais, j'étais pas suffisamment
proche d'elle.
Pour
moi, j'ai beau être proche des gens, je suis désolé, mais j'arrive pas à.
Ça, c'est chacun. C'est chacun qui.
Alors,
qui
le prend comme bon, après, les mecs, le jeu permet de ne pas le faire. Enfin,
exactement.
De ne pas aller jusque
et
là.
Et si tu joues avec Flavie, par exemple.
Je pense que j'irai pas jusque là.
Ah bon?
Ouais.
Ah bon.
Bah non parce que c'est. Bah non parce que quitte à faire ça.
Les femmes, ça fait pas pipi et ça fait pas caca.
Non mais autant ne pas jouer au jeu et puis passer directement à des choses plus sérieuses.
Non, ce que je veux dire c'est que le.
Quoi que le jeu c'est sérieux.
Cela dit, ce jeu a quand même un pouvoir qui est assez impressionnant que j'ai constaté à chacune des parties auxquelles j'ai joué de Breaking the Ice.
Ouais.
C'est que c'est un jeu qui amène à. À se dévoiler en douceur. Mmh. Et je suis certain, Rome, que si
un
on.
Un feuillage de grand luxe.
Ouais, si tu veux.
Référence Nanarland.
c'est possible. Je suis sûr que si on nous jouait, toi et moi, à Rome, même si on part au début en
sucette, non, c'est plutôt à la fin, ça.
En marié à tout prix, tu finiras par être. Tu finiras par être amené naturellement à.
Ah, tu penses?
Ouais.
À des choses plus sensibles, plus. Ça, j'y crois pas, moi.
Pas forcément plus sensibles, mais plus intimes, en tout cas.
En tout cas, c'est vrai que notre partie est allée.
C'est possible, c'est possible.
A eu un rythme de croisière assez tranquille.
Ouais.
Notamment en ce qui concerne les dévoilements, en tout cas des joueurs de Fabien et de moi. On s'est pas forcé, on y allait tranquillement. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, allez maintenant. Je pense sans se concerter.
C'est possible
ce que
tu dis, Fabien. Ouais, c'est possible. Peut-être même d'ailleurs que si on a joué qu'une seule scène, parce qu'on a joué, je pense qu'on a joué qu'un seul rendez-vous avec Christophe.
C'est possible.
Sinon, ça aurait pas duré aussi peu de temps. Et je pense que c'est justement parce que au-delà. Je serais sorti de ma zone de confort et ça m'aurait fait chier.
Le jeu est.
Oui, mais non, mais justement.
Il t'amène par la main doucement, il te force pas.
Je me souviens qu'on a commencé par des trucs au lycée, gnangnang, genre à la American Pie, complètement débile, complètement neuneux, et qu'on a quand même fini avec Christophe à regarder les étoiles ensemble, etc. C'est-à-dire que là, c'est d'ailleurs de là, Sylvie, je t'adresse ce message qu'est née toute une réputation autour de Christophe et de moi, mais nous n'en dirons pas davantage dans ce podcast.
Alors,
révèle déjà bien trop de choses.
Est-ce que vous êtes fait une tourte?
Une tourte? Qu'est-ce que tu...
Bon, revenons à Breaking the Ice.
c'est une référence à American Pie.
D'accord, ok. Ben non, pas du tout.
Où il paraît que faire, comme sont des ados, la rumeur c'est que faire l'amour avec une femme, c'est comme le faire avec une tarte chaude.
D'accord, ok.
Donc,
ouais. Un film très intéressant.
Il y a des films que j'ai pas vus, je sais pourquoi. Hein.
Un film à ne pas voir.
I'm a cheerleader, c'est bien mieux, tiens. Beaucoup plus mignon.
Moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Est-ce que globalement, vous conseillez le jeu, évidemment, hein, achetez-le en 3 exemplaires.
Enfin, c'est chacun. Pas achetez-le, jouez-y surtout.
Jouez-y.
Ouais.
Oui, pardon, excuse-moi, Fabien. Donc voilà.
Surtout qu'en plus, c'est tellement inhabituel dans le paysage rôliste,
ouais.
un jeu qui traite de relations amoureuses sans. Sans forcément forcer les choses, sans essayer de vous faire des choses que vous ne voudriez pas. Donc je pense qu'il laisse tellement de responsabilité des joueurs sur la fiction qu'en fait, ça me paraît difficile d'aller dans un terrain où on ne veut pas aller. Quoi.
D'accord, ouais. Donc jouez-y, appréciez la teneur de la relation et puis surtout le système qui me semble très bien fait qui invite les joueurs justement à créer une belle histoire d'amour avec des persos souvent assez profonds, assez intelligents, assez intéressants. Donc c'est vraiment un très très bon ou l'inverse. Oui, je pense que même comme disait Fabien tout à l'heure, je pense que même si tu vas dans l'humour, tu trouveras quand même des raisons
de trouver un intérêt.
Ça peut se tester. Écoute, moi pour l'instant, je vais me tenter un Breaking the Ice avec mon pieu si ça te dérange pas parce qu'il est tard là. Il dit n'importe quoi, d'accord. On en a révélé déjà bien. Pourquoi est-ce qu'on a été coupé là ?
Après un podcast historique, absolument génial,
ouais.
Il a fallu que cette connerie de logiciel Audacity se plante.
Non, c'est mon PC qui a planté.
Ah, d'accord.
Audacity n'y est pour rien. On dit merci à tous ces gens qui nous fournissent ces logiciels gratuitement.
Merci à Audacity qui nous fournissent. Ceux qui fournissent les OS de.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu ?
On a eu vraiment
les boules de notre ville.
On a vraiment les boules parce qu'à 3h du matin.
Le sauveur est arrivé.
3h du matin, on venait de finir le podcast et là tout
Pénard.
À coup. Ça plante, tout simplement. Écran bleu,
gentiment.
Non, gentiment, Windows plante. Et là, Fabien nous dit, Non mais les gars, pas de panique, ça m'est déjà arrivé, je sais comment faire et tout, je vais gérer. Et il a géré.
Mais ouais, on a
et t'as réussi à récupérer, sauf qu'il manque juste
le
la fin.
Le tout dernier bout.
Voilà. On vous disait juste au revoir.
Tout à fait.
Alors ben là, je crois qu'on va pouvoir leur dire au revoir.
Un petit supplément. Allez, salut.
Allez.
Ciao.
Au revoir. Au revoir.
Et jouez bien. Et n'oubliez pas que les never ever give up.